Alors bonsoir à tous. Ce soir, c'est la première leçon de théologie ascétique, du cours de théologie ascétique que nous avons souhaité, dont nous avons souhaité un enseignement au Centre Dumitru Staniloae pour cette année, puisque ça n'existait pas dans les années antérieures. Et le cours est destiné aux étudiants de premier cycle qui sont en troisième année. Alors, de quoi va-t-il s'agir? Il s'agira de découvrir progressivement les lois spirituelles qui président à cette vie ascétique, qui est, il faut le dire, au cœur de la vie de l'Église orthodoxe. Loi spirituelle, ai-je dit, car cette vie ascétique ne relève pas du sentimentalisme, de l'émotionnel ou des méandres de l'imagination, mais d'une pérégrination intérieure qui a essentiellement pour but l'union avec Dieu que l'on nomme divinisation ou déification. Plutôt que, pour reprendre la terminologie de Père Dumitru Staniloae, que l'on ose nommer divinisation ou déification. Alors, vous savez tous qu'il y a une longue tradition ascétique dans l'Église orthodoxe, qui va des apôtres aux anciens pères. Dans les textes de l'Évangile et dans les épîtres apostoliques, il y a de nombreux éléments qui nous renvoient à cette vie ascétique. Donc des apôtres aux anciens pères, des moines du désert d'Égypte, jusqu'aux pères d'aujourd'hui, parce que c'est une tradition ininterrompue, et c'est évidemment ce qui fait son intérêt. Et cette tradition, eh bien, elle perdurera jusqu'à la consommation des siècles, car elle est inscrite au cœur de la vie de l'Église. Et ces lois, d'ailleurs, il faut ajouter que ces lois s'imposent à tous ceux qui se sont joints au Christ, avec, bien sûr, dans la pratique, des modalités différentes qui sont adaptées à chaque état de vie dans le monde. Mais elles s'imposent à tous. Encore que, à côté du monachisme, comme on le sait, il y a ce que l'on nomme très justement le monachisme intériorisé, qui est pour tous, et ce qu'il est convenu d'appeler la radicalité évangélique, parce que c'en est une, est le bien commun de tous les chrétiens orthodoxes, sans distinction de leur état de vie dans le monde. Alors, tout en dégageant progressivement les lois spirituelles qui sont au cœur de cette grande tradition ascétique et mystique, nous nous efforcerons de mettre en valeur, en nous appuyant sur des écrits de la longue lignée des pères spirituels de tous les temps, nous nous efforcerons de mettre en valeur le caractère éminemment opératif de cette théologie ascétique. Car tous nous disent que l'union avec Dieu, avec le Christ, eh bien, c'est une union transformante pour l'homme. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par vous parler d'une première série de documents dont je vais me servir, donc je vais en donner une liste, qui, bien sûr, n'est pas limitative, comme vous pouvez vous en douter, tant est immense et abondante la littérature ascétique dans notre Église. Puis au fur et à mesure, cette bibliographie, bien sûr, au fur et à mesure du déroulement du cours, cette bibliographie sera enrichie. En premier lieu, je vais citer l'important ouvrage du père Dumitru Staniloae, Théologie ascétique et mystique de l'Église orthodoxe, que j'ai amené ici, donc Théologie ascétique et mystique de l'Église orthodoxe. Et en traduisant du roumain en français cet important texte qui est le rassemblement d'une série de cours donnés par le père Dimitru, grand théologien roumain du XXe siècle, le père Jean Boboc, doyen de notre centre, et Romain Attal, les traducteurs, donc les deux traducteurs, ont rendu un immense service à l'orthodoxie de langue française. Ce volume est paru aux éditions du CERF en 2011 et, à vrai dire, il nous servira de guide tout au long de ce cours. Alors, on fera appel également à l'important ouvrage de Jean-Claude Larcher qui s'appelle « Thérapeutique des maladies spirituelles » qui a fait l'objet d'une série de rééditions depuis la première qui doit remonter, si mes souvenirs sont exacts, en 93 ou 94, qui est devenu un classique. Nous utiliserons également différents textes de la Philokalie des Pères Neptiques, Philokalie, l'amour de la beauté, l'orthodoxie qui est de nature philokalique. Cette Philokalie qui a été éditée d'abord aux éditions Jean-Claude Lartès en deux gros volumes, donc introduite et préfacée par Olivier Clément, mais qui a fait l'objet aussi d'une édition en fascicules, qui sont plus maniables, au bon soin de l'abbaye bénédictine de Bellefontaine, dans l'ouest de la France. On se servira également d'un document très précieux s'agissant de la théologie ascétique. Je veux nommer les conférences de Saint Jean Cassien, qui sont parues aux sources chrétiennes, il y a trois volumes. Si mes souvenirs sont exacts, le numéro 42, le numéro 54, ou 52 et le numéro 64, donc trois volumes aux sources chrétiennes. Ces conférences de Saint Jean Cassien sont du plus haut intérêt parce que vous savez que Saint Jean Cassien était parti au désert, a d'abord résidé dans un monastère en Palestine, a obtenu l'autorisation de son père spirituel moyennant un prompt retour, donc d'aller au monastère, dans les monastères du désert de Sété en Égypte, où il était accompagné de Germain, Saint Germain de Dobroudja, son compagnon. Et évidemment, ces conférences de Jean Cassien sont du plus haut intérêt pour le sujet qui nous occupe. Également, donc, des grandes et des petites règles de Saint Basile le Grand, archevêque de Césarée en Cappadoce. Des homélies spirituelles de Saint Macaire d'Égypte, elles aussi publiées aux éditions bénédictines de Bellefontaine. De l'échelle sainte de Saint Jean Climac, toujours publiée chez le même éditeur. Des questions à Thalassios, donc de Saint Maxime le Confesseur, qui ont connu deux éditions, une aux éditions de l'Ancre en 92 ou 93, donc issue d'une traduction d'Emmanuel Ponsoir, et cette édition n'est pas meilleure que la plus récente édition parue aux sources chrétiennes, mais elle comporte par contre les commentaires de Père Dumitru Staniloé que le Père a fait sur les questions à Thalassios. Alors, également, on se servira des discours ascétiques de Saint Isaac le Syrien, publiés par les monastères Saint-Antoine le Grand et de Solan, traduits et introduits par le révérend père archimandrite Placide de Sailly. Mais aussi, donc, on se servira des discours ascétiques de Saint Diadoque de Fautissé. Ça, c'est pour les pères plus éloignés de nous dans le temps. Mais aussi, on appellera des pères contemporains comme Saint Silouane Latonite, comme Saint Porphyrios, comme Saint Païsios, et beaucoup d'autres encore qui seront mentionnés au fur et à mesure du déroulement de ce cours. Je ferai mention aussi d'un petit opuscule que l'on doit à Tito Colliander, qui est un laïc orthodoxe, qui est paru il y a plusieurs années, qui a fait l'objet d'une édition aussi à Bellefontaine, mais qui a fait aussi l'objet d'une édition plus soignée à partir d'une traduction du père Placide de Seille, qui est édité par le monastère Saint-Antoine le Grand. Ce petit opuscule, il s'appelle « Le chemin des ascètes ». Tito Colliander était un laïc orthodoxe. Donc c'est très intéressant ce texte parce qu'il s'adresse, il ne fait pas partie au sens propre du terme de la littérature monastique, il s'adresse à tous les fidèles de l'Église orthodoxe qui, eux aussi, sont amenés à suivre le chemin des ascètes dans des conditions évidemment différentes des moines, bien sûr. Mais je le recommande, ce petit ouvrage, on le trouve au monastère Saint-Antoine le Grand. Donc, voilà. Une première bibliographie. Tous ces livres sont disponibles, donc vous pouvez, pour votre plus grand profit, les acquérir, ou au moins les lire, et travailler dessus pour que ce cours qui va se dérouler tout au long de l'année vous soit profitable. Et bien sûr, je vais me servir du plan proposé par le père Dumitru lui-même dans la théologie ascétique et mystique de l'Église orthodoxe. Ça va être un peu la colonne vertébrale de ce texte, de ce cours, pardon. Et dans le texte de père Dumitru, il y a un déroulement en trois phases. Il y a une introduction, bien sûr, et un déroulement en trois phases. La purification des passions par la pratique des vertus. Deuxièmement, l'illumination avec les dons du Saint-Esprit et la prière pure. Et troisièmement, l'accomplissement par l'union avec Dieu, ce que l'on nomme déification ou divinisation. Les deux termes sont utilisés dans la littérature ascétique orthodoxe. Donc j'en viens maintenant au premier propos de père Dumitru dans son ouvrage. Que dit-il ? Il décrit l'objectif de la spiritualité orthodoxe qui est inséparable, bien sûr, de cette tradition ascétique et mystique, qui en est le cœur même. Je cite, « L'objectif ultime de la spiritualité orthodoxe réside dans l'accomplissement du croyant par son union avec le Christ, ainsi que dans l'impression toujours plus profonde, l'impression au sens d'imprimer, toujours plus profonde de l'image du Christ en lui, image d'humanité emplie de Dieu. Et il dit, le but de la spiritualité chrétienne orthodoxe est donc l'union de l'homme avec Dieu en Christ. Pour ajouter presque immédiatement, mais Dieu étant infini, l'union avec lui, notre accomplissement en lui n'est jamais un terme indépassable. Autrement dit, ça signifie que nous ne cesserons jamais, ni dans ce monde, ni dans l'autre, de croître, de grandir dans le Christ, comme le disait déjà Saint Grégoire de Nice. Et c'est d'ailleurs en ce sens-là, justement, et uniquement en ce sens-là, qu'on peut parler pleinement de progrès, stricto sensus. Parce qu'au fond, il n'est de progrès que spirituel. Car la nature déchue n'est pas susceptible de progrès en dehors du Christ. Il faut être bien pénétré de cette idée, à mon sens. La nature déchue n'est pas susceptible de progrès en dehors du Christ. Ce qui a fait dire à un père spirituel, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, « Soyez sourd quand on vous parle en dehors du Christ ». Ça, c'est une vérité profonde pour nous. Soyons sourds quand on nous parle en dehors du Christ. Et voyez-vous, à propos de cette notion de progrès, il fallut tout l'aveuglement des philosophes dits des Lumières au XVIIIe siècle et de leurs successeurs pour pour penser et croire que le progrès, cette fois-ci, entre guillemets, le progrès matériel, qui est une notion purement quantitative et non pas qualitative, l'amélioration des conditions de vie de l'homme s'accompagnait ou s'accompagnerait nécessairement d'un progrès moral. C'est une position qui est soutenue par ces philosophes dits des Lumières, mais qui n'est pas tenable, en fait, car il n'échappe à aucun observateur, un tant soit peu honnête et attentif, que c'est bien souvent le contraire qui se passe. Plus l'homme est persuadé de sa toute-puissance, grâce à ses technologies, grâce à sa technique, plus la décadence morale augmente. C'est un fait expérimental que chacun peut observer. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas en vain que l'homme se sépare de Dieu. L'homme laissé à lui-même, l'homme qui chasse Dieu de lui, eh bien, il est abandonné à une régression morale, mais pas seulement morale. Et les sociétés occidentales sont là pour en témoigner. Peut-on parler de régression morale des sociétés occidentales qui pourtant ont atteint un niveau de développement technologique jamais connu dans l'histoire humaine? Peut-on parler de régression morale dans ces conditions-là? Eh bien, je réponds oui. Je réponds totalement oui. Alors, la vie ascétique, dont le télos, dont la finalité est l'union à Dieu, eh bien, elle a pour but de revivifier notre véritable nature par l'union transformante en Christ. C'est bien une revivification qui est l'enjeu de cette vie. Ce vers quoi, d'ailleurs, tous les fidèles chrétiens orthodoxes sont appelés, ce vers quoi ils doivent tendre. Eh bien, cette vie ascétique s'apparente à une lutte incessante, invisible et, on peut dire, sans répit. Hein ? Elle est invisible, cette lutte, c'est sûr, elle se passe en nous, mais elle est incessante et sans répit parce que nous sommes toujours, à cause de la faiblesse de notre volonté, guettés par un certain nombre de puissances maléfiques qui agissent à l'intérieur de nous et qui sont promptes à nous faire chuter. Notre volonté est faible, nous le savons, et nous savons dans le même temps combien est fort l'attrait et la dispersion dans le sensible. Le prince de ce monde, d'ailleurs, ne s'y trompe pas, puisqu'il a pour objectif de faire tomber toutes les âmes humaines, de les arracher du Christ, de les séparer du Christ, et de les faire tomber dans ce qu'il y a de plus bas en l'homme. C'est pourquoi nous commençons toujours par prier, d'ailleurs, il y a un lien entre ces deux choses. Dans l'Église orthodoxe, c'est pas un hasard si nous commençons toujours par prier le Saint-Esprit. Et nous lui demandons ses dons. Parce que, pourquoi ? Parce que nous avons vitalement besoin de lui. Nous avons besoin vitalement de sa force pour entreprendre, pour commencer, entreprendre et persévérer dans cette lutte, pour qu'il nous donne le don de la vigilance aussi dans cette lutte. C'est pourquoi nous disons dans cette prière, purifie-nous de toute souillure, viens et fais ta demeure en nous. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est une demande pressante qui revient dans toutes nos prières, et cet appel à l'Esprit pour qu'il nous purifie de toute souillure et qu'il viennent habiter en nous, elle est nécessaire pour que nous soyons assistés dans le commencement de cette lutte ascétique et pour que notre volonté soit renforcée, qu'elle ne soit plus faible et dispersée, et pour que nous soyons préservés autant que faire se peut de la dispersion dans le sensible. Alors, au commencement de cette lutte invisible, il doit y avoir pour chacun d'entre nous la vision de sa propre réalité humaine, autrement dit de sa condition de pécheur. Être en capacité de regarder sans détour et sans phare notre misère, parce que notre réalité humaine déchue, c'est une misère, et notre condition de pécheur. Notre condition d'esclave du péché. Parce que, très souvent, nous aimons cet esclavage du péché, en cultivant nos passions, et nous y reviendrons. Donc, regardez d'abord cette réalité, très directement, sans chercher d'excuses, sans nous trouver des circonstances atténuantes, comme on dit en justice, dans un procès. Parce que dans ce domaine, nous n'avons pas de circonstances atténuantes. Et il y a un adage qui dit, alors je n'ai pas retrouvé la source de cet adage, mais il y a un adage qui est très juste qui dit « Celui qui a vu son péché est plus grand que celui qui ressuscite des morts. » C'est fort comme parole. Hein. Donc voir notre propre réalité n'est pas une mince affaire, nous le savons tous d'expérience. Car le mal qui est en nous, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il nous parasite, il nous paralyse, il nous tient dans ses fers. Et c'est paradoxal parce que ce mal, il n'a pas de réalité ontologique. Et pourtant, il nous tient en esclavage. Il nous plonge, en quelque sorte, dans une existence surajoutée à notre véritable nature et dans une non-existence, en fait. Et c'est là aussi toute la thématique des tuniques de peau qui est utilisée par saint Grégoire de Nice. Il nous dit que par le péché, nous avons revêtu les tuniques de peau, symbole de cette surnature, cette nature surajoutée, qui nous est étrangère, parce que nous n'avons pas été créés dans cette nature-là. Cette nature qui nous est étrangère, mais qui néanmoins nous dépossède, nous aliène, c'est-à-dire nous fait sortir de nous-mêmes, de notre véritable nature, c'est ça l'aliénation, et qui nous tient en esclavage. C'est une nature déchue, alors que notre véritable nature, notre nature première, celle dans laquelle l'homme a été créé, elle est à l'image et à la similitude d'avec Dieu, la ressemblance, la similitude. Donc, en prenant notre nature humaine, le Verbe de Dieu fait homme, sans que sa nature divine subisse un quelconque changement ou une quelconque altération, le Christ, lui qui est sans péché, eh bien, il vient en quelque sorte lever, mais de l'intérieur, notre faiblesse naturelle, notre déficience naturelle. Il vient redresser notre volonté pervertie. Il vient même mettre à mort notre mort, parce que par sa mort, il a vaincu la mort, c'est-à-dire qu'il a mis fin à l'empire de la mort, au cycle infernal de la naissance pour la mort. Il a cassé ce cycle infernal et il est descendu dans l'empire de la mort pour faire éclater la toute-puissance de la vie, de sa vie. Lui qui est le maître de la vie. Et de fait, il s'agit d'une revivification intégrale qui rend à nouveau possible, c'est énorme ça, souvent on utilise ces mots mais on n'en mesure pas toute la portée, qui rend à nouveau possible la connaturalité du Fils de Dieu avec ses frères selon la chair. C'est immense ça. Autrement dit, nous sommes libérés. On n'insiste pas, à mon goût, si vous voulez, suffisamment sur le fait que le Christ nous libère. Il nous libère. Nous sommes libres dans le Christ. Et très souvent, à l'image des anciens Hébreux qui pérégrinent au désert, parce que la liberté, ça a un prix, la liberté, c'est accepter le risque, très souvent, eh bien, nous préférons l'esclavage des passions plutôt que la liberté dans le Christ, comme les anciens Hébreux qui maugréaient contre Moïse en disant, là-bas, on était esclaves, certes, mais on avait un toit, on avait un travail, on avait à manger. Et là, tu nous emmènes dans un lieu où il n'y a rien, on ne sait pas où tu nous emmènes. Voilà. Souvent, nous réagissons de cette manière alors que le Christ nous a libérés. Autrement dit, toute cette lutte ascétique, elle trouve son fondement dans l'incarnation du Christ pour le salut du genre humain, du moins pour le salut de ceux qui le reconnaissent comme tel, dans sa mort vivifiante et dans sa glorieuse résurrection, et non dans les seules forces, les seules propres forces de l'homme. La lutte ascétique n'aurait aucun sens si nous comptions simplement sur nos seules propres forces. Elle trouve son fondement dans l'incarnation du Christ et dans l'œuvre de salut du Christ. D'ailleurs, l'ascèse qui reposerait sur un fondement qui ne serait que les propres forces de l'homme ne serait, quant au fond, une manifestation de l'orgueil. Vous savez, c'est très à la mode, ça, aujourd'hui. Toutes les thérapies de redressement de l'homme, de délivrance intérieure et tout ça, qui sont des techniques qui exaltent la toute-puissance de l'homme, eh bien, c'est très à la mode. Mais ce n'est pas la cesse chrétienne orthodoxe, c'est tout à fait le contraire. Et à ce propos-là, d'ailleurs, il y a un aphorisme qui est énoncé par le philosophe paysan qui s'appelait Gustave Thibon, qui a vécu centenaire, et qui, parlant de cette fausse ascèse, fondée sur l'orgueil et la croyance en la toute-puissance des moyens purement humains, a cette formule lapidaire, mais qui est absolument géniale, il dit « différence », il pose la question, « différence entre l'ascèse et la débauche ?» point d'interrogation, et la réponse c'est « les deux s'épuisent dans des œuvres de chair ». C'est très très bien vu. Donc, évidemment, il ne s'agit pas dans notre tradition de cette fausse ascèse qui glorifie l'orgueil humain, mais d'une ascèse qui commence par le fait que l'âme se découvre telle qu'elle est, et ce processus réclame la pratique d'abord du mystère sacrement de la confession, de l'aide du Père spirituel, car si l'on prétend ne compter que sur soi-même, on reste toujours emmuré dans sa propre illusion. Mais au contraire, quand on s'ouvre à ce moyen de grâce que le Seigneur a donné à son Église, qui est son corps, eh bien, on découvre et qu'on est pénétré de notre propre misère intérieure, eh bien, on découvre toute l'étendue de la miséricorde divine, toute l'étendue de l'amour du Christ pour les hommes. Et cette âme peut dire à son tour, à ce moment-là, si elle est dans ses dispositions intérieures, « De l'abîme de mon iniquité, j'invoque l'abîme de ta grâce. » De l'abîme de mon iniquité, j'invoque l'abîme de ta grâce. Donc, cela signifie quelque chose de tout à fait concret, expérimental. C'est que cette lutte ascétique invisible, cette dure lutte ascétique, dois-je dire, tant notre volonté est faible et volatile, c'est le repentir et l'humilité qui doit en être à la base. Pas la modestie, hein, faut pas confondre l'humilité et la modestie. La modestie, bien sûr, c'est une vertu tout à fait bonne, mais c'est une vertu sociale. L'humilité, c'est une vertu spirituelle. Donc ce n'est pas du même ordre. Humilité qui fait que nous gardons à l'esprit la distance qui nous sépare de Dieu. Quand nous sommes dans une attitude intérieure humble, nous prenons véritablement la mesure de la distance entre Dieu, entre Dieu et sa gloire, et notre misère intérieure, notre faiblesse et notre misère intérieure. Et à ce moment-là, nous nous ouvrons, parce que c'est pas du masochisme ça, hein, c'est une attitude tout à fait positive qui nous permet de nous ouvrir à quelque chose, quelqu'un plus exactement, qui est extérieur à nous, mais qui est très proche de nous et qui ne demande qu'à entrer en nous et à cheminer avec nous. Repentir, donc, qui fait que toute la vie chrétienne est un chemin de repentir, et ce chemin n'est pas fait de tristesse. Le repentir, c'est pas quelque chose de sinistre, c'est pas quelque chose de triste, c'est au contraire le retournement, la conversion, la séparation volontaire et consciente de tout ce qui fait obstacle au Christ en nous. Donc ça suppose que notre volonté soit ferme, mais c'est tout à fait contraire à une attitude faite d'assédie, de tristesse. C'est au contraire la volonté de mener le bon combat de la foi dont parle saint Paul. Hein, vous savez que dans saint Paul, il y a des métaphores militaires ou des métaphores empruntées au stade qui décrivent effectivement ce qu'est ce combat de la foi, qui est un combat ascétique. Le repentir qui est incessant, qui doit être incessant dans la prière, ce repentir, c'est selon le saint évêque russe du XIXe siècle, Ignace Brianchaninov, le seul mode de connaissance de Dieu qui nous convient. Il n'y a pas à chercher une connaissance plus haute que celle-là, parce que c'est par le repentir que l'union, par le repentir et dans la prière, bien sûr, hein, les deux sont inséparables. Il n'y a pas de repentir sans prière, il n'y a pas de prière sans repentir. Et c'est par ce repentir que l'union avec Dieu dans la prière augmente en nous, croît en nous. Ignace Brianchaninov nous dit qu'il n'y a pas besoin de chercher une connaissance prétendument plus haute. L'humilité, donc, le repentir, nous permettent, avec l'aide de Dieu, d'aller à la source spirituelle du mal. Parce que ça, c'est bien aussi l'un des enjeux de cette lutte ascétique. Aller à la source du mal. Pourquoi ? Parce que le péché, il s'accomplit d'abord dans l'esprit, nous savons tous. Et d'ailleurs, il y a des paroles évangéliques qui l'attestent. Le péché s'accomplit d'abord dans l'esprit, avant de se traduire en acte par les sens, puisque l'homme est un composé d'esprit, âme et corps, donc il traduit en acte ce qui est conçu dans l'esprit d'abord, il le traduit en acte au moyen de ses cinq sens, ou de l'un de ses cinq sens, selon le péché en question. Mais c'est d'abord, au plus profond de nous-mêmes, que ce péché est conçu. Et les pères nous disent, s'agissant de la source spirituelle de ce mal, eh bien, quelle est-elle ? C'est ce qu'on appelle la philautia. L'amour propre, l'amour de soi, qui est la base de l'orgueil et qui est la source de la chute et du péché. L'orgueil, c'est le pivot de tous les péchés. Évagre le Pontique le dit, mais pas seulement Évagre, tous les pères spirituels de tous les âges le disent, le répètent. Il y a la symphonie des pères sur cette question-là. Et ça permet de dire aussi autre chose. Selon saint Maxime le Confesseur, l'ascèse, elle nous permet aussi de percevoir, de préciser la structure hiérarchique de la nature. Pourquoi ? Parce qu'elle postule la maîtrise du spirituel sur le matériel. ce que dit là saint Maxime le Confesseur dans les Ambigua et dans les Questions à Thalassius, c'est un thème bien connu dans la théologie de saint Paul, qui nous rappelle que si l'âme est spirituelle, tout l'homme est spirituel, et si l'âme, au contraire, est charnelle, tout l'homme est charnel. Ça veut dire, entre autres choses, que la tradition ascétique de l'Église orthodoxe, qui est sans discontinuité depuis les apôtres, depuis l'enseignement du Christ et les apôtres, ne se place pas dans une perspective platonicienne ou néoplatonicienne où la matière est conçue comme une prison de l'âme, donc où la matière est produite, promise plus exactement à la destruction. Là, la matière, qui est en théologie biblique d'ailleurs, c'est constant, qui a sa dignité propre, pourquoi ? Parce que c'est une créature de Dieu, et saint Paul nous dit que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas, il s'adresse aux croyants de je ne sais plus quelle ville, dans une de ses épîtres, c'est aux Corinthiens, je crois, c'est « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Donc, cette matière, elle est servante et non pas maîtresse de l'âme. Si c'est le cas contraire, eh bien, à ce moment-là, tout l'homme est charnel. Et saint Maxime le Confesseur, qui est l'un des auteurs patristiques les plus cités par le père Dumitru Staniloe, donc dans son ouvrage « Théologie ascétique et mystique de l'Église orthodoxe », dit même que l'épithumia, donc la concupiscence, la puissance désirante, lorsqu'elle est épurée, peut se retourner et devenir le désir ardent du divin. C'est dit dans les questions à Thalassios, mais c'est dit aussi dans cet ouvrage dont je me sers pour ce cours. Cette remarque, je crois, est très intéressante et mérite d'être soulignée, parce qu'il ne s'agit pas ici de détruire les passions. Les passions ne doivent pas faire l'objet d'une destruction, mais d'une purification. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi ? Donc, faire l'objet d'une purification par la pratique des vertus. On verra ce que signifie le mot vertu. Là aussi, c'est entendu au sens spirituel, c'est pas au sens mondain de la philosophie des Lumières, qui parlait des vertus mondaines, excusez-moi la répétition, pour d'ailleurs les transgresser les unes derrière les autres. Là, ce sont des vertus au sens spirituel. On reviendra sur cette terminologie le long de ce cours. Donc, il s'agit de purifier ces vertus, de purifier ces passions par la pratique des vertus. Pourquoi saint Maxime le Confesseur dit cela ? Eh bien, le but, c'est de redonner à ces passions, en les retournant, bien sûr, par ce processus de purification, de leur redonner leur première place. Parce qu'à l'origine, et ça fait partie de notre constitution d'être créé, à l'origine, eh bien, Dieu a mis en nous des énergies, à placer dans notre nature des énergies pour nous permettre de nous orienter vers lui, de monter vers lui. Et le péché, justement, la transgression, elle désoriente littéralement ces énergies, elle les dégrade en passion, elle les absolutise en passion, par lesquelles justement, l'homme cherche l'absolu dans le relatif, dans le transitoire et dans le passager. Vous voyez, Maxime le Confesseur a parfaitement raison de dire qu'il ne s'agit pas de détruire les passions, mais de les purifier pour les retourner vers leur sens originel, qui ne sont plus des passions, bien sûr, qui sont des énergies positives qui nous permettent de nous orienter et de monter vers Dieu. Alors, dans cette voie, qui s'apparente à un pèlerinage, hein, parce que nous sommes de passage dans ce monde, donc nous sommes des pérégrins à l'intérieur de ce monde, guidés par la lumière de la foi dans l'obscurité et dans les ténèbres de ce monde. Donc, dans cette voie qui est une pérégrination vers l'accomplissement, dont le but, je le rappelle, est notre union à Dieu, le père Dumitru Staniloae établit et distingue deux grandes étapes. Il nous dit que la première étape, elle est active. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la base de cette première étape, il y a d'abord le désir, la quête de l'accomplissement, par, premièrement, la purification, et deuxièmement, l'acquisition des vertus. Comment ça commence? Ce désir qui est au cœur de l'homme, il se traduit en acte d'abord par la ferme volonté qui s'exprime devant Dieu et qui demande son aide et que l'on peut résumer par ces mots qui sont souvent employés par des pères spirituels de toutes les générations. Aujourd'hui, je commence. Mais ce n'est pas un commencement qui est donné une fois pour toutes, tout au long de la vie. À l'instant T, je dis au Seigneur, aujourd'hui, je commence. Je commence à marcher sur ce chemin dont j'ai le désir, parce que ce chemin va me mener vers toi. Bon. Ce aujourd'hui, je commence, il doit être répété chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie, parce que nous allons à Dieu de commencement en recommencement, comme le dit Saint Grégoire de Nice. Et évidemment, la formule a été reprise par un très grand nombre de pères. De la même manière qu'il nous est demandé d'avoir la pensée de la mort chaque jour, donc de notre propre finitude, parce que plus nous avançons dans la vie terrestre, plus le temps se restreint, se raccourcit. C'est la loi de tout être humain venant en ce monde. Donc de la même manière, il faut, et c'est un gage de fidélité, répéter devant Dieu chaque jour, aujourd'hui, je commence. Donc cette première phase, elle est active, elle engage la ferme volonté de l'homme, alors que la volonté de l'homme est versatile, alors qu'elle est faible. Là, il faut faire preuve de force et de fermeté, parce que sans cela, rien ne se passe. Et ça nous incombe, avec l'aide de Dieu, bien sûr, Dieu n'est pas absent, l'Esprit Saint de Dieu n'est pas absent dans cette phase-là, mais là, il faut nous impliquer complètement, il y a notre part, parce que nous entrons dans la lutte ascétique à ce moment-là. Et Tito Colliander, dans son petit ouvrage que j'ai cité, « Le chemin des ascètes », eh bien, il commence par ça, justement. « Aujourd'hui, je commence. » En reprenant cette parole patristique bien connue. Il faut bien mesurer les choses, parce que cette décision, elle est lourde de conséquences. D'abord, et je le répète, parce que notre volonté est faible, elle est sans arrêt susceptible d'être sollicitée, d'être dispersée, et qu'elle a besoin sans cesse du secours divin. Mais aussi, je le rappelle, en nous souvenant de la parole évangélique qui figure dans Saint Luc, je cite de mémoire, je n'ai pas le verset mot pour mot, « Celui qui met la main à la charrue et qui se retourne en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. » Donc vous voyez, c'est lourd de conséquences de prendre la décision de commencer. C'est pas rien, c'est pas une parole en l'air. Toujours selon le père Dumitru Staniloae, la deuxième étape, elle est réceptive. La première étape est active, la deuxième étape est réceptive. Très important ça. Pourquoi parle-t-il de cette deuxième étape comme étant réceptive? Parce qu'elle témoigne d'une plus grande élévation dans l'union. Et là, nous dit le père, ce n'est plus l'homme, mais Dieu qui est à la manœuvre, qui œuvre. En réalité, il ne faut pas non plus séparer trop arbitrairement ces deux étapes, comme nous allons voir. Il faut les distinguer, mais garder dans une vision d'ensemble. Parce qu'il y a un adage patristique qui dit « c'est l'homme qui transpire, mais c'est Dieu qui travaille ». Et c'est profondément exact. Dans la première étape que décrit le père Dumitru, bien sûr, c'est l'homme qui travaille, donc qui transpire. Enfin, c'est l'homme qui transpire, mais c'est Dieu qui est à l'œuvre aussi derrière, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais là, ça engage complètement la volonté humaine. Dans la deuxième étape, l'homme est plutôt en état de réceptivité. Il s'ouvre à l'œuvre de Dieu en lui. C'est-à-dire qu'il lui incombe dans cette étape, à cet homme, de laisser Dieu agir en lui, de le laisser accomplir son œuvre en nous. C'est pas rien, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui en nous s'opposent à cette action de Dieu en nous. De nous ouvrir dans cette étape, puisque nous devons être en état de réceptivité, de nous ouvrir à l'action de l'Esprit en nous. D'être en quelque sorte comme un vase précieux et purifié en capacité de recevoir le précieux nectar. Donc, dans la distinction de ces deux étapes que fait le père Dumitru, fort justement, il ne faut pas, nous, à notre tour, établir une séparation trop tranchée. Dans la mesure où la première étape, il n'y a pas une chronologie absolument totalement perceptible entre ces deux étapes. On ne peut pas dire, par exemple, dans la première étape, l'homme est à l'action. Cette première étape étant définitivement acquise, on peut passer à la seconde. C'est plus compliqué que ça quand même, parce que nous pouvons le percevoir tout simplement dans la vie réelle. S'il est vrai que la première étape, à savoir la purification des passions et l'acquisition des vertus, est le préalable, le père Dumitru insiste là-dessus, est le préalable à une plus grande élévation dans l'union, il en demeure pas moins vrai, puisque nous sommes faibles et sans arrêt sollicité pour des retours en arrière, il n'en demeure pas moins vrai que tout au long de la vie chrétienne, il faut sans cesse, avec l'aide de Dieu, purifier le cœur, l'intellect, les pensées, les débarrasser de toutes leurs scories. Et à vrai dire, cette phase ne cesse véritablement jamais, en tout cas le temps de notre vie terrestre. Elle dépend, ai-je dit, de la décision, du désir de l'homme, de sa ferme volonté, sans pour autant que l'Esprit Saint soit absent, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors, de ces deux étapes, moi, je trouve que c'est très fort ce que dit le père Dumitru dans ce domaine, parce que on l'expérimente en nous, ça. C'est pas des spéculations intellectuelles, ça, c'est des vérités expérimentales, dans la lutte ascétique que chacun peut très bien voir, discerner. De ces deux étapes, active et réceptive, le père Dumitru décrit quatre caractéristiques. Juste avant, je fais un petit aparté, là, juste avant de décrire ces quatre caractéristiques que l'on trouve dans le texte du père Dumitru, je veux rappeler que cette première étape, l'active, elle est décrite dans les conférences de Saint Jean Cassien, notamment dans la 13e conférence, la 13e, c'est le classement de la tradition manuscrite dans les sciences chrétiennes, la 13e conférence, où Cassien rapporte les propos d'Abba Isaïe. Je me souviens plus, j'ai un doute si c'est Abba Isaïe ou Abba Isaac, donc un père du désert d'Égypte. Il rapporte les propos de ce père, justement, sur la purification des passions et la pratique des vertus, et sur le fait que cette étape est une phase active où la ferme volonté de l'homme est très importante, où elle agit de manière très importante. Et je rappelle aussi, ça c'est en dehors de mon sujet, mais il faut le dire quand même, que ces conférences, et notamment cette 13e conférence de Cassien, lui a valu, ainsi d'ailleurs que les propos de ce qu'on a appelé les moines provençaux, la glorieuse cohorte des moines provençaux, j'ai nommé ceux issus de l'abbaye Saint-Honorat de Lérins, avec Saint-Honorat, avec Saint-Hilaire, avec Saint-Césaire d'Arles, avec Saint-Vincent de Lérins, qui est une figure absolument éminente de cette tradition des moines provençaux. Ça leur a valu l'accusation de semi-pélagianisme de la part des augustiniens et leur condamnation dans un concile en Gaule réuni au VIe siècle. Mais ce sont eux qui sont, ces moines provençaux et cassiens, qui sont dans la vérité orthodoxe ininterrompue depuis le Christ, et non pas les augustiniens qui les ont mis en accusation. Alors, je reviens maintenant aux quatre caractéristiques énoncées par le père Dumitru. La première, c'est que la vie chrétienne orthodoxe vise donc l'union de l'âme à Dieu, ça a été dit. Union qui ne relève nullement de spéculation intellectuelle, de construction intellectuelle. Vous savez que dans l'Antiquité chrétienne, il y avait des courants gnostiques qui prétendaient parvenir par différentes formes d'extase et de spéculation intellectuelle à l'union avec la divinité, voire à l'extinction dans la divinité, voire à la fusion avec la divinité. Rien de tout cela, évidemment, pour ce qui nous occupe. Là, c'est cette affirmation nous renvoie à une expérience vivante de quoi ? De l'intimité croissante avec le Seigneur, dont la prière est le fondement. La deuxième caractéristique, toujours selon Père Dumitru, c'est que l'union est essentiellement l'œuvre de l'Esprit Saint qui agit en nous, et, nous dit-il, l'Esprit Saint, il agit dans un cœur purifié. D'où la première phase, la phase active. Et non, l'Esprit Saint n'agit pas dans un cœur encombré, qui est habité par tout un tas de choses qui font obstacle au Christ. Hein, puisque le cœur de l'homme, il est comparé par de nombreux pères à un trône qui est digne de recevoir son maître, le Christ, le roi des cieux. Lui, l'illimité qu'aucun lieu ne peut contenir, il veut habiter le cœur de l'homme. Vous voyez, là aussi, c'est immense, ça. Donc, voilà. La troisième caractéristique, c'est que cette union se réalise très concrètement une fois que l'homme s'est purifié. C'est purifié par des passions, par la pratique des vertus. À ce moment-là, l'homme s'est rendu à la similitude de Dieu. Autrement dit, le père Dumitru nous dit qu'elle est inséparablement connaissance et amour, cette union. Et je ferme la remarque suivante, c'est que c'est très exactement ce que nous dit saint Jean, l'apôtre et évangéliste. Alors, là aussi, il ne faut pas établir des barrières, de dire du point A au point B, c'est la phase active, après on est rendu à la similitude de Dieu, et on est dans l'union, hein, du point C au point D. Non, il faut voir ça comme une tension dynamique, hein, ne pas perdre ça de vue, évidemment. Et la quatrième caractéristique que Père Dumitru décrit, c'est que l'union restitue, restaure graduellement, bien sûr, puisque c'est un processus de croissance, un processus vivant de croissance, restitue, restaure, développe, intensifie les énergies spirituelles dans l'homme et favorise l'éclosion et le développement des charismes dont il est porteur. On est bien là, donc, au cœur de ce que l'on nomme déification. Lorsque l'on ose, c'est un mot qui est employé par le Père Dumitru dans son texte, lorsque l'on ose employer le vocable de divinisation. Et si osé que soit l'emploi de ce terme, il est pourtant employé dans toute la tradition ascétique orthodoxe et dans l'écriture sainte qui en constitue la norme. Par exemple, je cite la deuxième épître de l'apôtre Pierre, où retentit l'appel à la sainteté qui est elle-même le fruit de la libéralité divine en faveur des hommes. Je cite « Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Elle nous fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. Par elle, les précieuses les plus grandes promesses nous ont été données, afin que vous deveniez ainsi participants de la nature divine, vous étant arrachés à la corruption qui est dans le monde, dans la convoitise. » C'est dans la deuxième épître de Pierre, premier chapitre, les versets 3 et 4. Donc on est en face d'une terminologie qui nous renvoie à cette théologie ascétique, divinisation, déification, participation à la nature divine. Bien sûr, on est appelé à cette participation, non seulement l'essence divine qui n'appartient qu'à Dieu, mais par l'adoption filiale, donc par l'adoption filiale qui nous permet de participer à cette vie divine. Ces expressions, nous allons les rencontrer chez tous les auteurs dont j'ai cité les noms tout à l'heure dans la bibliographie, et dans d'autres qui seront appelés tout au long de ce cours. Mais je rappelle que c'est surtout une expérience concrète à chaque génération chrétienne qui doit s'approprier cette expérience. Expérience dont le Père Dumitru nous dit qu'elle englobe deux idées fondamentales. Premièrement, cette expérience, comme il nous le dit, c'est l'ultime degré de la perfection humaine. Et bien sûr, il est aisé de comprendre pourquoi. Il n'y a pas d'expérience plus haute qui soit donnée de vivre à l'homme en ce monde. Deuxièmement, d'expérience spirituelle plus haute qui soit donnée à l'homme de vivre en ce monde. Deuxièmement, c'est le but ultime de toute la vie du chrétien. Ce pourquoi il doit lutter au quotidien avec l'aide de Dieu. Parce que, dans le cas contraire, s'il n'y a pas ça, quid de la vie chrétienne? Ça se résume à rien, tout simplement. Dans le meilleur cas, ça se réduirait à quelques observances de préceptes moraux qui eux-mêmes sont privés de leurs principes spirituels. Donc, ce serait une observance tout à fait extérieure qui nous mènerait très facilement à la transgression. Quand les choses nous deviennent totalement extérieures, nous devenons complètement indifférents. Quand les principes moraux nous sont extérieurs, eh bien, ils sont bons à être transgressés, et c'est ce que la société des hommes ne se prive pas de faire. Alors, la morale elle-même, lorsqu'elle est amputée de ses fondements spirituels, mais qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient, comme il est bien pensant de le dire, elle devient évolutive, au point qu'elle connaît une inversion, le mal devient le bien, l'erreur devient vérité, au motif qu'elle est partagée par le plus grand nombre, puisqu'il n'y a plus de vérité transcendante. tout devient relatif, et que le principe de souveraineté revient au poids de la masse, masse qu'il faut bien dire, est manipulée et orientée selon les intérêts des officines et des différents experts, qui, eux, n'ont aucun intérêt à apparaître en pleine lumière. Ça, il faut que ça soit bien clair. Donc, sans vie en Christ, sans cette lutte ascétique au quotidien avec l'aide de Dieu, la vie chrétienne perd tout son sens. Tout ce que nous pouvons vivre par ailleurs nous devient extérieur et ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Ça perd de sa saveur. Et troisièmement, donc, toujours dans la suite de cette expérience vivante, donc de cette participation à la vie divine à laquelle nous sommes appelés, le père Dumitru affirme que c'est l'étape donc la plus élevée qui soit donnée à l'homme de vivre dans son existence terrestre. Et il ajoute que cette élévation n'est pas le fruit de l'œuvre des efforts du croyant seul, mais d'abord l'œuvre de l'Esprit-Saint. Et il en veut pour preuve ce qu'il cite de saint Grégoire Palamas, « Notre intelligence sort d'elle-même et c'est ainsi qu'elle s'unit à Dieu, devenant supérieure à elle-même. » Voilà, j'en ai terminé pour la leçon d'aujourd'hui. Donc on va continuer avec l'aide de Père Dumitru de pérégriner dans ce cheminement de la théologie ascétique. Merci de votre attention.